Étienne Manac est un diplomate français qui a, après avoir été professeur de philosophie, commencé sa carrière en 1945 à Prague puis à Bratislava. Il connaît alors tous les soubresauts de l'après-guerre dans la Tchécoslovaquie d'alors, qui passe sous la coupe des communistes. En 1951, il est expulsé en 48 heures du pays pour activités hostiles contre le régime. Ses activités hostiles, c'est l'aide qu'il apporte aux démocrates tchécoslovaques pour fuir le pays. Sa fille, Berenice Manac, publie depuis 2008 le journal intime de son père, dont le deuxième tome couvre toute la sombre période dans la Tchécoslovaquie d'après-guerre. Anna Kobešta l'a rencontrée.
Berenice Manac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Prague, dans le cadre en fait d'une conférence à Prague et à Bratislava, pour présenter le journal intime de votre père, Étienne Manac, qui a été publié en France. Alors, aux éditions, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, Skolvreiz.
Oui, c'est très bien, Skolvreiz.
Vreiz, oui. D'accord.
L'école bretonne.
D'accord, donc de là, on peut comprendre que ce sont des éditions bretonnes, oui. Puisque votre père était en fait breton, c'était un diplomate. Alors, est-ce que pour commencer, on pourrait brosser un petit peu un portrait de votre père en quelques phrases, si c'est possible de résumer un petit peu sa carrière et son portrait?
C'est un diplomate qui est assez connu, qui a été un des grands diplomates, on peut dire français du 20e siècle, mais en même temps qui n'était pas du tout caractéristique. C'est-à-dire il vient d'une famille très pauvre, il vient de la campagne bretonne, il a grandi comme un petit gamin à grimper dans les arbres ou des choses comme ça. Il a été à l'école, il a eu la chance, malgré sa famille très pauvre, comme il était bon élève, d'avoir une bourse, ce qui lui a permis de faire des études. Et il est devenu en fait d'abord professeur de philosophie, c'était ça. Il voulait devenir écrivain, il est devenu professeur de philosophie et jamais il aurait pensé devenir un jour diplomate. Et il est devenu diplomate parce que la Seconde Guerre mondiale est arrivée et que pendant la Seconde Guerre mondiale, il se trouvait comme professeur à Galatasaray, au lycée franco-turc d'Istanbul, et que là, il s'est rallié à la résistance, tout simplement, à la France libre. Et peu à peu, la France libre a remplacé les diplomates de Vichy, en quelque sorte. Et voilà comment il a été, après la guerre, nommé tout de suite à Prague.
Alors ça, c'est vraiment après la guerre, c'est en 1945.
Au mois d'août, je crois, où il est arrivé vraiment, la guerre était à peine finie, avant le premier ambassadeur, qui était Maurice Dejean, il est arrivé pour préparer l'ambassade. Il n'était pas tout seul, hein, il y avait un chargé d'affaires qui était là, et puis une petite équipe, et il a donc aidé à préparer la première ambassade d'après-guerre, en Tchécoslovaquie à l'époque, donc Tchécoslovaquie.
Comme vous le dites, comme beaucoup de personnes, finalement, son destin a été changé par la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi, il a aussi été finalement un peu le fruit de l'école républicaine, hein, puisque vous dites qu'il venait d'une famille pauvre. Oui. C'est le principe de la méritocratie, en tout cas pour cette époque-là. En effet, en 1945, il est donc nommé à Prague, à l'ambassade, mais il reste quelques mois à Prague. Très peu de temps,
oui.
Et il est très vite envoyé en tant que consul à Bratislava.
Oui, il est très déçu parce que pratiquement dès l'arrivée de l'ambassadeur, début décembre 45, avec sa nouvelle équipe, il est nommé consul général à Bratislava. Et il n'y avait pas de consulat il a ouvert un consulat sur la demande des Tchécoslovaques, si l'on peut dire. Il a ouvert le premier consulat général de France à Bratislava de l'après-guerre. Il était très déçu parce qu'il avait l'impression qu'un consulat, c'est pas aussi politique qu'une ambassade, et que dans une ambassade, on parle des grands problèmes de diplomatie et de politique, et que dans un consulat, finalement, on est là pour donner des visas aux gens et pour s'occuper des retraites des anciens combattants, des choses comme ça. En fait, il s'est aperçu bien vite que c'était pas du tout le cas, et il a eu à Bratislava des expériences et des responsabilités extraordinaires. C'était très intéressant comme poste.
Alors, on va y revenir, puisque justement, la période pendant laquelle il exerce ses fonctions en Tchécoslovaquie, donc à Prague, puis à Bratislava essentiellement, c'est une période historique extrêmement importante, évidemment, puisque en 1948, évidemment, il y aura le coup de Prague, ça on va revenir un petit peu après. Alors on voit un petit peu au début de ses carnets quand même comment vraiment ses écrits en fait reflètent les grandes problématiques de l'immédiate après-guerre. Ici en Tchécoslovaquie, par exemple, il parle du renvoi des Allemands, des Hongrois.
De population avec les populations hongroises. Oui, c'est juste l'époque où il y a des grands mouvements. Il décrit ça, c'est assez impressionnant, des grands mouvements de population qui se font au lendemain de la guerre et l'évacuation des Allemands. C'est décrit assez... Enfin, moi, je savais pas. Je savais que les Allemands avaient été évacués, mais je savais pas qu'il y en avait qui pouvaient rester quand ils avaient été du bon côté, qu'ils avaient soutenu la résistance aux nazis ou des choses comme ça. Donc, des Allemands qui sont restés. Et en Hongrie, avec la Hongrie, il y a beaucoup de problèmes aussi, parce que tout le monde n'a pas envie de... on n'est pas obligé toujours, je crois, de quitter le pays. Il y a une...
En fait, il y a des Hongrois qui sont renvoyés en Hongrie et certains qui sont restés en Slovaquie puisqu'ils avaient une ascendance slovaque.
Oui, voilà. Il y a une reslovaquisation de certains Hongrois qui, du coup, deviennent slovaques vraiment ou des choses comme ça.
Alors, en février 1948, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le coup de Prague. Donc, le gouvernement démocratique est renversé à la faveur d'un putsch, en tout cas de la démission de ministres démocrates. Le Parti communiste, qui était très fort après la Seconde Guerre mondiale, un peu comme en France d'ailleurs, prend le pouvoir. Et votre père, à ce moment-là, en fait, est en France. Oui, au moment du coup de Prague, il n'est pas là.
Non, il est absent au moment du coup de Prague, il se trouve à Paris.
Et alors, comment est-ce qu'il ressent l'ambiance immédiate en revenant? Quels sont ses sentiments?
D'abord, il écrit dans une lettre, dans le train, qui le ramène, il dit « Pour l'instant, je vois pas de différence ». Je crois qu'il remarque l'amabilité particulière, même des gens dans le train, enfin des contrôleurs du train ou des choses comme ça. Donc, il remarque rien les premiers jours.
Quand est-ce que se fait un petit peu le changement
Le changement, il s'était fait même avant, parce qu'en Slovaquie, contrairement à la Bohème et à la Moravie, en Slovaquie, il y avait déjà eu à l'automne de 1947 une tentative de putsch, pratiquement. C'est-à-dire que Husák, qui était à l'époque le président du Conseil national slovaque, avait déjà essayé de renverser, si l'on peut dire, l'espèce de petit parlement qui avait en Slovaquie, mais ça a manqué et tout a été rétabli. Donc en quelque sorte. Mais il y a eu déjà à cette époque-là des arrestations, des gens qui ont été libérés après, etc. Donc à l'automne 47, il y avait déjà, on peut dire, une idée de ce qui allait se passer en 48. Alors après, en 48, ça a été très très vite, parce qu'à Bratislava, mon père est donc rentré à Bratislava, et là ça a été très vite. Dès les premiers jours, il y a des gens qui sont venus demander l'aide du consulat de France pour se réfugier, pour quitter le pays. Énormément de gens. On voit, c'est ce qu'il y a de plus passionnant dans le livre, en fait, de voir cette fuite, d'abord des amis de la France, mais des démocrates en général, des gens tous ceux qui avaient la possibilité, qui avaient un lien avec la France, et la possibilité aussi d'imaginer une vie à l'étranger, parce que c'est pas toujours évident, hein, selon le métier qu'on a, ou les langues qu'on parle, c'est pas toujours évident de quitter le pays.
Quelle est la politique de la France à ce moment-là?
On aide les démocrates qui essayent de se sauver.
Votre père y participe, justement.
Il y participe, c'est assez amusant, parce qu'il est pas, par moments, il est pas toujours très expert. Il y a une scène qui m'amuse où, je prononce à la française, hein, les noms Joseph Mikouche, qui avait déjà été arrêté fin 47 et qui, en 48, a vraiment senti qu'il pouvait plus rester dans le pays. Il réussit à s'évader et mon père l'aide à s'évader par le train vers la Hongrie. Il voulait l'envoyer auprès des services de renseignement français en Hongrie. Le commandant de l'Anurien, qui avait participé au soulèvement national slovaque d'ailleurs, qui se trouvait à Budapest. Malheureusement, quand Mikouche arrive à Budapest, l'Anurien n'est pas là. Et Mikouche s'adresse donc à l'ambassade de France. Et l'ambassade de France téléphone à mon père en disant « Nous avons reçu un paquet de Bratislava ». Et mon père, il dit « Un paquet? J'ai pas envoyé de paquet ». Finalement, d'un seul coup, il comprend de quoi il s'agit. Il dit « Oui, j'ai envoyé un ami ». Et il se dit « Si les services secrets sont en train d'écouter notre conversation, je suis vraiment le dernier des imbéciles ». Il se rend compte qu'il a aucun entraînement à ce genre de choses. Mais il va s'habituer assez vite.
Au moment où votre père est arrivé finalement dans la diplomatie, il est arrivé avec des idées quand même assez proches des idées du Parti communiste, un petit peu liées quand même à l'époque de la résistance, pendant la guerre. Et en fait, très vite, il se met à détester finalement ce régime. Alors, quel est un peu le déclic qui se fait justement en lui ?
Non, le déclic, il a eu lieu avant en fait. Il a été communiste avant la guerre. Et il a rompu avec le Parti communiste, ça c'est ce qu'on voit dans le tome 1 du journal intime, il a rompu avec le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. Pour lui, ça a été la trahison définitive. Ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à un certain idéal qu'il avait eu depuis sa jeunesse, mais qui n'a rien à voir avec le stalinisme et avec le communisme tel qu'on l'a connu dans ce pays, par exemple. Et donc, il n'avait pas besoin du coup de Prague pour ne pas avoir de sympathie pour ce... pour ce régime. Il n'a jamais eu la moindre sympathie pour ce régime. Et il le dit bien dans son journal, on le voit tout le long. Hein.
Sa femme, Nella, aussi, a une peur des Russes.
Oui, elle connaît bien.
Et oui, justement, alors dans quel contexte a-t-elle connu justement les Russes et pourquoi a-t-elle peur justement quand elle est en Tchécoslovaquie?
Oui, la femme d'Étienne, qui s'appelle Nella, qui est ma mère, c'était une Italienne, une jeune Italienne, fille d'un ouvrier italien communiste qui avait dû fuir l'Italie fasciste dans les années 20, qui s'était réfugié en France, qui a été expulsé de France et qui s'est réfugié à Moscou, comme faisaient beaucoup de gens, beaucoup d'Allemands anti-nazis et beaucoup d'Italiens antifascistes et beaucoup d'Espagnols qui avaient échappé à Franco, etc. Donc ma mère avait 10 ou 12 ans quand elle est arrivée à Moscou. Et là, elle est tombée amoureuse d'un bel Italien.
Emilio.
Emilio était assez critique, très vite critique vis-à-vis du système soviétique, et il a été arrêté au début de 1935 et déporté au cercle polaire en Russie du Nord, pas en Sibérie, mais dans le nord de la Russie, au cercle polaire. Et ma mère, Nella, qui avait 16 ans à cette époque-là, l'a suivi, tout simplement. 3 mois après, elle est allée le rejoindre là-bas. Et ils se sont mariés là-bas, dans un village d'ours, comme ils disent, où ils ont vécu une misère épouvantable, dans un village pauvre, sans avoir le droit de travailler, sans revenus, sans rien, et par des températures sibériennes, évidemment. Au bout d'un an et demi, Emilio a été arrêté une nouvelle fois. Et là, Nella l'a cherché partout. Elle n'a jamais su où il avait disparu. Et elle est rentrée en Italie. Puis en France. Et mon père est allé la chercher en Italie. Mon père l'avait rencontrée à Moscou. Mon père était un ami d'Emilio. Et donc ma mère a vécu l'époque des grandes purges soviétiques. Elle a vécu ces épouvantables années 1935, 36, 37. Elle les a vécues à Moscou, c'est-à-dire les gens qui frappent à la porte dans la nuit
et qui vous emmènent
quelqu'un, qui emmène le voisin en tout cas. Et peu à peu, et personne ne dit rien, on voit les amis disparaître.
Et donc le fait justement que les communistes prennent le pouvoir ici en Tchécoslovaquie, à l'époque, ça a dû raviver tous ces souvenirs.
Terriblement, oui. Elle revivait tout à fait cette atmosphère-là.
Finalement, ce qui est très intéressant dans ces deux personnalités, finalement, votre père ancien adhérent du Parti communiste, votre mère fille d'ouvrier communiste, c'est que toutes ces personnes ont très vite eu la gueule de bois par rapport à l'idéologie communiste stalinienne, alors que beaucoup d'autres personnes qui allaient URSS, enfin Confère, Aragon et compagnie, sont restés quand même relativement de farouches partisans de cette idéologie. Ouais. C'est assez intéressant de voir cette dichotomie entre des personnes qui connaissaient tous ce qui se passait, mais qui ne réagissaient pas de la même façon.
La différence, c'est que tout le monde connaissait, ou il faut dire connaissait, il y en a beaucoup qui n'ont jamais voulu croire, ou pendant très longtemps qui n'ont pas voulu croire, qui se sont aveuglés, ne serait-ce que parce que ça leur aurait enlevé l'idéal de leur vie.
Mais finalement, votre père a réussi à prendre sur lui d'une certaine façon.
Oui, il avait vraiment un exemple assez dramatique lui-même avec Nella, la relation avec Nella, donc un exemple qui montrait bien, comme il savait absolument, il connaissait bien Emilio, il savait bien qu'Emilio n'était pas un espion ou un trotskiste, ce qui n'était pas, c'était pas le pire, mais il n'était même pas trotskiste. Oui, lui, il a pu vraiment se séparer vraiment nettement de l'idéologie stalinienne, et même communiste. Il est devenu plus tard socialiste, et il est resté socialiste jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, il est toujours resté un homme de gauche, mais ça, quand on vient d'une famille pauvre et d'une famille engagée dans la politique, c'est on peut pas faire autrement presque. On reste fidèle à des idées d'égalité, de justice ou de choses comme ça.
Alors, Étienne Manac est décédé au début des années 90,
92,
en 1992. Oui. Ça veut dire qu'il a connu la révolution de velours.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en a pensé?
Ça, c'est une chose qu'on pourrait publier presque de page en page. Je ne sais pas si j'en ai mis quelques passages dans l'épilogue. Je crois j'ai mis quelques lignes sur Houssac, qu'il est temps que Houssac disparaisse, etc. Des choses comme ça. Mais j'en ai mis que des petits morceaux. Évidemment, ça serait intéressant d'ajouter à ce volume-là tout ce qu'il écrit pendant, puisqu'il a écrit vraiment son journal, il a commencé à l'âge de 15 ans et il a terminé l'avant-veille de sa mort. Donc c'est vraiment un journal qui couvre toute l'existence et presque tout le XXe siècle, toute l'histoire du XXe siècle. Et il a eu évidemment énormément de bonheur de voir la Tchécoslovaquie à cette époque-là se libérer. D'abord en 68, et puis même après, quand vraiment le mur de Berlin est tombé, que toute l'Europe, d'un seul coup, comme un château de cartes, s'est effondré, quoi, pour redevenir libre.